Je passe tout de suite la parole à Patrick Artus, qui est directeur des études économiques de Natixis, qui est aussi l'auteur d'un livre qui porte précisément le titre de Sortir de la crise. Il l'a coécrit avec Olivier Pastret, et c'est Odysée édition Perrin. Patrick, on vous écoute.
Merci François. Bonsoir à tous. Je voulais simplement présenter et remercier les personnes qui sont sur cette scène ce soir, qui ont accepté de venir à Lyon pour ce débat. Et donc, je vais faire dans l'ordre de la tribune. Donc, tout au bout, Pierre Jaillet. Pierre Jaillet est directeur général des études et des relations internationales à la Banque de France. Ensuite, Jean Pisani-Ferry. Jean Pisani-Ferry est directeur de Bruegel, qui est un think tank bruxellois que vous connaissez certainement. Louis Schweitzer est président de la HALD et ancien président de Renault. Martin Hirsch, que je présente pour ceux qui éventuellement sont restés au fond d'une cave dans les 10 dernières années, et haut commissaire aux solidarités actives et contre la pauvreté, et haut commissaire à la jeunesse, d'ailleurs, c'est un des points importants de ce que dira Martin Hirsch tout à l'heure. Et à ma gauche, Olivier Klein est président du directoire de la Caisse d'épargne de Lyon, Rhône-Alpes, et s'occupe de la majeure économie à l'École des hautes études commerciales. Voilà les personnes qui ont eu la gentillesse de venir ce soir pour ce débat.
Merci Patrick. Trois mots sur notre sujet, sortir de la crise. C'est vrai qu'il y a deux chiffres dans l'actualité du jour, donc la reprise de la croissance en France et en Allemagne, hein, plus 0,3 en France, plus 0,7 en Allemagne, donc des chiffres relativement significatifs qui semblent témoigner d'un retour de la croissance. Et pourtant, les observateurs que nous sommes voient bien qu'au fond, quant aux grandes causes de la crise, pas une n'a été sérieusement amendée, pas une n'a été sérieusement traitée. Hein. On va en parler tout au long de cette séance. Bien sûr, les défauts de régulation, les déséquilibres d'épargne et de croissance dans le monde, et puis la persistance d'une dette considérable. Sur ce point même, la situation s'est bien sûr beaucoup détériorée avec la crise. Ce paradoxe appelle plusieurs questions qui vont être précisément nos ordres de mission pour le débat. La première, c'est quelle est la réalité de cette reprise ? Au fond, quelle est sa solidité, son espérance de vie ? Est-ce qu'il faut y croire ? La deuxième, quelles sont les bonnes politiques de sortie de crise ? C'est vrai qu'on a vu aussi dans l'actualité que France et Allemagne, pour reprendre ces deux exemples, adoptent des stratégies sensiblement différentes. La troisième, comment accompagner les plus vulnérables dans cette fin de crise et puis aussi dans la sortie de crise, de façon à ce qu'ils reprennent le chemin de l'emploi dans des conditions optimales, en préservant leur capital. Et enfin, dernière question qui est évidemment très fondamentale, qu'est-ce qu'on a appris pendant la crise sur le fonctionnement de l'économie même qui puisse nous aider à éviter le retour d'une crise de ce genre ? On va commencer notre tour de table. Je reviens à vous, Patrick. Bon, c'est devenu un lieu commun, au fond, de dire que la crise est à la fois un problème et une solution. C'est à la fois un symptôme de maladie et puis un espoir de guérison. Quant à cette crise-là, justement, l'observateur averti et éclairé que vous êtes, directeur des études économiques de Natixis, est-ce que vous diriez que, justement, elle a commencé à régler un petit peu les problèmes qui étaient les nôtres avant et que, au fond, on s'achemine vers, je ne dis pas un futur heureux, mais au moins une reprise solide ?
Je vais plus ou moins jouer le rôle du méchant ce soir et d'ailleurs plutôt poser des questions qu'apporter les solutions que les autres autour de moi essaieront d'apporter. Je voudrais d'abord dire que le retour à une croissance positive à partir du troisième trimestre de cette année est un non-événement total. On a mis en place des déficits publics absolument gigantesques. On a mis en place des politiques monétaires extraordinairement expansionnistes, dont Pierre Jaillet parlera tout à l'heure. Le prix du pétrole a eu le bon goût de baisser très fortement entre l'année dernière et cette année, ce qui a redonné du pouvoir d'achat aux consommateurs. C'est tout à fait évident que c'est ceci qui a fabriqué le retour à une croissance positive. On n'ose pas imaginer ce qu'aurait été la croissance sans les politiques contracycliques extraordinairement violentes qui ont été mises en place. Regardez le cas français, hein, nous aurons cette année un déficit public supérieur à 8% du produit intérieur brut, c'est-à-dire 6 points de plus qu'il y a 2 ans. Hein, et malgré tout, nous allons avoir une décroissance de 2% cette année. Donc évidemment, ce que nous voyons, c'est l'effet de court terme des politiques contracycliques qu'il fallait mettre en place, mais qui ne règle pas les problèmes structurels. Alors, dans les 7 minutes qui me restent, je voulais évoquer...
6 tout au plus.
6 tout au plus. Je voulais évoquer... les 4 problèmes structurels qui me paraissent les plus lourds et qui me paraissent être plus graves après la crise qu'avant. Donc par rapport à ce que vous disiez, François, à l'instant, je ne crois pas du tout que la crise a commencé à réduire un certain nombre de problèmes structurels. Je pense qu'au contraire, elle les aggrave. Alors le premier problème structurel, il me semble fondamental, c'est le problème de déqualification, puisque c'est de là que part la crise. Depuis 15 ans, nous, dans les pays européens, aux États-Unis, nous transformons des emplois qualifiés en emplois peu qualifiés, ce qui se fait par le processus de désindustrialisation et de délocalisation. La plupart des salariés qui perdent des emplois raisonnablement bien qualifiés de l'industrie retrouvent des emplois moins qualifiés dans les services et très peu retrouvent des emplois plus qualifiés dans les nouvelles technologies ou dans des secteurs plus sophistiqués. Et c'est de là que vient la faiblesse des salaires. La faiblesse des salaires est essentiellement le reflet de la déqualification en moyenne des salariés. Et c'est de là que vient la crise, puisque pour compenser la faiblesse des salaires, et c'est mon deuxième point, on a utilisé le crédit comme substitut aux revenus pour maintenir la consommation, alors que fondamentalement, on aurait dû avoir une croissance beaucoup plus faible dans ce processus de déqualification. On sait que le modèle américain, qui se polarise d'un côté sur des emplois très sophistiqués dans les nouvelles technologies, dans la finance, et de l'autre côté dans des emplois de services, de construction peu qualifiés, est un modèle qui ne marche pas, parce qu'on ne peut pas impunément faire disparaître le milieu de l'éventail des qualifications et des emplois. Deuxième point qui n'est pas réglé et qui est pire qu'avant la crise, c'est le délire monétaire. Donc j'espère que Pierre Jaillet n'écoute pas. Nous avons en ce moment une quantité de monnaie mondiale qui augmente de plus de 30% par an, ce qui évidemment fabrique déjà des bulles sur la plupart des prix des actifs qu'on peut voir, les marchés d'actions des pays émergents, le pétrole, les autres matières premières, l'or. Et la situation de ce point de vue est pire qu'avant la crise, puisque nous sommes confrontés exactement à la même situation, c'est-à-dire des politiques monétaires très expansionnistes pour essayer de fabriquer de la croissance dans les pays de l'OCDE, dans les pays les plus riches, et la poursuite de la situation de faiblesse chronique du dollar, où maintenant, même si les États-Unis ont réduit leur déficit extérieur, on voit d'énormes sorties de capitaux qui partent des États-Unis et qui vont dans les pays émergents et qui spontanément conduiraient un dollar encore beaucoup plus faible que ce qui n'est, d'où la nécessité pour les pays émergents d'acheter des dollars continuellement pour empêcher le dollar de baisser. Les réserves de change des pays émergents et des pays producteurs de pétrole augmentent en ce moment d'à peu près 200 milliards de dollars tous les mois, et c'est ceci qui fabrique cette inondation de monnaie. Donc l'inondation monétaire, qui est évidemment aussi au cœur de la crise, puisque c'est elle qui a déjà fabriqué la bulle immobilière qui a déclenché la dernière crise, et est pire qu'avant la crise, et on n'a réglé ni ce problème-là, ni évidemment le problème de régime de change et du système monétaire international, qui est totalement toujours déréglé. S'il vous reste un tout petit peu d'optimisme, donc j'ai encore deux problèmes qui sont aggravés. Alors je voulais appeler ça le retour de la lutte des classes, mais finalement je vais dire les problèmes de partage des revenus sont pires qu'avant la crise. La crise, c'est une machinerie à faire baisser les salaires. On a un chômage qui monte et que la croissance ne suffira pas à faire baisser. On perd plus qu'avant la crise des emplois qualifiés et des emplois industriels. La désindustrialisation est absolument dramatique. La zone euro a perdu 8% de sa capacité de production dans l'industrie depuis le début de la crise. Et à côté de ça, les profits des entreprises vont bien. Et pas que les banques. Si vous regardez les profits des entreprises, ils auront bientôt retrouvé leur niveau d'avant-crise. C'est déjà le cas aux États-Unis. C'est en cours en Europe par une technologie que d'ailleurs le Japon et l'Allemagne avaient adoptée il y a 15 ans, qui consiste à faire baisser les salaires pour faire monter les profits. Et donc nous sommes en train de créer une déformation du partage des revenus encore plus violente qu'avant la crise. Et nous voyons maintenant les salaires baisser aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, au Japon. Et ça commence en France. Et c'est quelque chose qui, évidemment, enferme dans la trappe à croissance faible par cette volonté de rétablir très très vite une rentabilité élevée du capital. Dernier point qui est très important, il me semble, il va apparaître une difficulté tout à fait considérable et qui est un point central, qui est une difficulté pour financer à long terme les économies. Les financements privés à long terme sont en train de disparaître. D'une part, comme conséquence de la crise, les banques se financent plus cher, donc ont du mal à lever des ressources à long terme. Et le régulateur fait des choses assez bizarres, puisque dans le temps même où le régulateur, où les gouvernements disent il faut mettre du capital dans les PME, il faut favoriser les PME innovantes, toutes les régulations financières qui sont mises en place conduisent à ce que les banques, les intermédiaires financiers, les assureurs, etc., sont totalement découragés d'investir dans les entreprises. Et donc, on a un problème de financement à long terme des économies. Pour l'instant, le financement est intermédié par les États hein, ou par des banques publiques. Et on se demande si ceci sera le régime d'équilibre et de croisière qu'on devra avoir pour le reste, pour une longue période de temps. Et si on n'arrive pas à financer à long terme, en particulier les PME, on aura un problème chronique d'emploi, d'innovation, d'exportation. Donc ce dernier point dont on parle peu souvent me paraît aussi tout à fait central.
Merci Patrick.
7 minutes 58, 12.
Merci à la fois pour cet exposé, Cristalin, pour votre ponctualité. Cristalin, mais pas très revigorant. Hein. Louis Schweitzer, je me tourne vers vous un peu et je vous appelle au secours, au fond. Vous êtes, Patrick l'a dit, le président de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, mais vous avez été aussi un industriel éminent puisque vous avez été à la tête du constructeur automobile Renault. Alors, à quelles conditions cette reprise économique vous semble-t-elle pouvoir être durable ?
Bon, quelques remarques, je ne sais pas si elles seront plus gaies que celles de Patrick Artus. La première remarque, ça a été souligné quand même, la crise n'est pas tout à fait finie. Et donc, il faut encore, d'abord, avant de parler du long terme, poursuivre une politique, à mes yeux, de relance. Hein, je ne pense pas qu'on est dans une situation où on doit se préoccuper de l'après-crise. Il faut continuer de sortir de la crise, donc poursuivre une politique de relance qui peut être par la baisse des impôts, qui peut être par l'augmentation des dépenses, qui peut être par la voie monétaire, mais qui est nécessaire. Et je vois dans le domaine que je connais mieux, l'automobile, c'est que dès qu'on fait une politique de relance, l'économie réagit. Second point, pour essayer d'aller un peu au-delà. Au fond, le modèle économique qui nous a sorti de la crise de 29 et qui a fonctionné dans les 30 glorieuses, on l'appelait l'économie sociale de marché. Alors après, à l'époque, il y avait un débat avec l'économie étatique ou planifiée, mais au fond, le modèle occidental est l'économie sociale de marché. La partie de marché ne pose plus problème. La partie sociale, probablement, gagnerait à être réaffirmée. Social, ça veut dire quoi? Ça veut dire une idée de progrès partagé et une idée de régulation du marché. Et je voudrais développer ces deux idées en trois points. Premièrement, Patrick Artus l'a dit, on a une dynamique inégalitaire des revenus qui existait avant la crise et qui, pour moi, est une des causes de la crise. Je m'explique. Le modèle américain fordiste, c'était l'entreprise paye des salaires qui font que les salariés peuvent devenir ses clients. Et la machine fonctionne vertueusement. Quand on est sorti de ce modèle, et on est sorti de ce modèle, puisque aux États-Unis, dans la croissance, dans la période récente, alors même qu'il y avait de la croissance, le revenu médian, c'est-à-dire que le revenu de la famille moyenne, lui, ne croissait pas. Ce qui fait que la consommation normale n'alimentait plus la croissance. Et on a remplacé ça par quoi ? Par l'endettement. Tout le monde y gagnait, si je puis dire, les salaires ne montaient pas, la consommation croissait et les banques, au passage, prélevaient leurs dîmes. Si on veut une croissance durable, il faut d'abord une consommation saine, c'est-à-dire issue de revenus primaires et pas seulement de l'endettement. Ça implique sans doute une nouvelle réflexion sur le partage des revenus. On a parlé beaucoup de politique des revenus, primaire ou secondaire autrefois, je pense qu'il faut une politique des revenus. Et que, au fond, un des signes du dérèglement, c'est une exigence de profitabilité déraisonnable des entreprises. Patrick Artus y a fait aussi allusion. Le fait qu'on n'a pas eu d'inflation des biens de consommation, on a eu des inflations des biens de thésaurisation. Les biens de thésaurisation, c'est l'immobilier, c'est les actions, c'est les œuvres d'art. Parce que là, c'était ce que demandaient les gens fortunés. Et qu'en revanche, les biens de consommation, ben, il n'y avait plus de clients, donc il n'y avait pas d'inflation. Donc, premier point, une politique de distribution des revenus plus équilibrée. Second point, il y a sans doute un déplacement de la consommation vers d'autres biens. On va continuer, bien sûr, à acheter des voitures. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a une demande croissante de biens qui sont partiellement collectifs et qui ne sont pas nécessairement marchands. Je pense à la sécurité, je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense à la culture, je pense à l'environnement. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Chine. Par exemple, il y a une demande de protection sociale aux États-Unis comme en Chine pour un accès à la santé. Et le côté sympathique de cela, c'est à la fois que ça équilibre le progrès, progrès partagé, et aussi que du point de vue du développement durable, on voit que tous ces biens sont beaucoup moins consommateurs d'énergie que nos biens de consommation traditionnels. Donc je pense là, pas une évolution brutale, mais une évolution assez lente vers une part croissante de biens que j'appelle non strictement marchands dans la consommation. La santé, l'éducation, la sécurité, la culture, l'environnement. Troisième point, toujours l'économie sociale de marché, il y a une aspect de régulation. Au fond, historiquement, on était dans des régulations nationales, ça fonctionnait assez bien, quelquefois un peu lourdes, mais au fond, on avait un système un peu organisé. Aujourd'hui, on est dans un système où les États, c'est évident, n'ont plus la capacité de réguler et ils n'ont plus non plus la capacité fiscale. Or, on n'a pas de politique collective sans une capacité fiscale, sauf si on dit que seuls les pauvres payent les impôts, ce qui ne me paraît pas une bonne pratique du point de vue moral, ni du point de vue économique, ni du point de vue social. Et donc, il faut que les États retrouvent leur capacité fiscale. C'est le début a été marqué par la lutte contre les paradis fiscaux. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Mais on voit, par exemple, un pays comme les États-Unis pose la règle que les citoyens américains sont redevables de l'impôt où qu'ils se trouvent, où qu'ils résident. Ça, c'est une piste de réflexion en matière de politique fiscale. Et deuxièmement, qu'on retrouve une capacité régulatrice. Ça peut être au niveau européen, je crois que c'est aussi au niveau du G20 et aussi au niveau du FMI. Donc au fond, en un mot commençant, pour moi, l'avenir est dans la mise en œuvre effective d'un modèle adapté à des circonstances nouvelles qui s'appelait l'économie sociale de marché, en mettant l'accent sur le mot du milieu, économie sociale de marché. Merci.
Merci à vous. Merci. On reviendra bien sûr d'ailleurs sur cette dialectique entre le social et le marché et aussi sur les éléments que vous avez donnés sur l'exigence de rentabilité des entreprises et la façon dont on peut tempérer ou pas cela. Auparavant, on va s'intéresser à la politique monétaire. Pierre Jaillet, vous êtes directeur des études économiques et des relations internationales de la Banque de France. Patrick disait tout à l'heure, on est dans une espèce de délire monétaire. C'est vrai qu'on est dans une situation, il a été de bon ton de critiquer Alan Greenspan, le Alan Greenspan du début des années 2000 pour l'excès de liquidité qu'il avait déversé sur la machine économique américaine et mondiale. On est aujourd'hui dans un système qui est bien plus encore inonde le monde d'argent. Comment peut-on en sortir? Faut-il en sortir ou pas maintenant? Et comment peut-on en sortir?
Merci. Je vais d'autant mieux tenir mes 8 minutes que j'ai une voix dans un état calamiteux et donc moins je parle, mieux je me porte. Deux points. D'abord, le diagnostic qui, à mon avis, ne relève pas seulement de l'anecdote et ensuite les stratégies de sortie. Alors, je crois que sur le diagnostic, il y a trois types de lectures. Et quand on regarde les différents indicateurs, on peut avoir un scénario vert ou rose ou noir selon, que l'on regarde, selon les indicateurs que l'on regarde. Au plan macroéconomique, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une euphorie totale, effectivement, dans les indicateurs conjoncturels et dans la confiance. Mais en même temps, ce que l'on observe, c'est qu'on est toujours, selon les pays, à 20-40% en dessous du pic de production industrielle qu'on avait connu avant la crise. La croissance mondiale a repris, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est extrêmement diversifiée et contrastée. Je crois que ce n'est pas complètement anecdotique de voir qu'en fait, elle est complètement tirée par les pays émergents, complètement tirée par l'Asie émergente et d'une certaine manière complètement tirée par la Chine. Je donnerai un seul chiffre. La reprise des exportations, des importations chinoises depuis le creux de la fin 2008, c'est plus 80%. Alors, deuxième type de lecture dans le diagnostic, c'est les indicateurs monétaires et financiers. Et là, on peut à nouveau avoir le yin et le yang. Je veux dire, prenons reprise de la bourse, baisse du crédit. On a reprise de l'offre, c'est-à-dire normalisation en réalité de l'offre de crédit, notamment aux entreprises et aux ménages, mais la demande, sinon s'effondre, en tout cas est en baisse. On a une croissance de la base monétaire qui elle-même reflète ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu des mesures non conventionnelles et que les banques centrales effectivement ont injecté pas mal de liquidités dans l'économie, mais on a une baisse de la masse monétaire, si vous regardez. Bon, on revient finalement aux bases, c'est-à-dire le crédit crée la monnaie. Alors finalement, les résultats sont là. Je crois qu'il faut regarder la situation actuelle. Il y a une normalisation des conditions du crédit sur les marchés financiers. en particulier tant qu'on regarde, les primes de risque sont revenues à des niveaux qui sont pas très éloignés de celles qu'on avait avant la crise. Le coût du crédit lui-même est revenu pratiquement dans les zones 2005-2006. Les conditions monétaires globales, c'est-à-dire prenant en compte à la fois les taux à court terme, les taux à long terme, les taux de change, sont elles-mêmes plus aisées, même si elles restent à des niveaux un petit peu plus élevés que ce que l'on souhaiterait, notamment à cause de l'appréciation de l'euro. Enfin, troisième niveau de lecture, c'est les incertitudes sur les profils de la reprise et les scénarios de croissance. Alors à court terme, on a toutes les lettres, on a le U, le V, le W. À mon avis, quand on regarde les prévisions qui font consensus sur 2010-2011, on est plutôt dans un schéma racine carrée, c'est-à-dire qu'on va effectivement avoir une reprise assez forte à la fin 2009 et au début 2010, mais qui va s'essouffler. Et en fait, compte tenu de l'acquis qu'on aura à la fin 2010, on a un profil pratiquement plat sur 2010. Au-delà, je crois que la vraie question, c'est quels sont les scénarios de croissance. Et on a trois scénarios en tête. Le premier, c'est le trou d'air, qui est un petit peu celui qu'a connu la Suède, finalement, après la crise financière. C'est-à-dire, on retrouve assez rapidement une croissance forte et on permet finalement de gommer les effets de la crise. Il y a un deuxième scénario qui est, on a le trou d'air, mais on ne rattrape pas. C'est-à-dire qu'on retrouve le taux de croissance d'avant, mais on garde, on perd l'acquis. Et puis, il y a un troisième scénario qui, malheureusement, est moins rose, qui est celui qu'a connu un peu le Japon. C'est-à-dire, non seulement on a la marge d'escalier, mais on ne rattrape jamais le taux de croissance d'avant. Et dans ce cas-là, on a un vrai problème. Et c'est la question que, finalement, tout le monde se pose dans le cadre de la division internationale du travail qu'on pourrait connaître dans les années à venir. Et à cet égard, est-ce que la crise actuelle, la crise financière, n'a pas été un facteur d'accélération? Est-ce qu'on va retrouver les niveaux de croissance avec tout ce qui va avec, l'emploi, le pouvoir d'achat, etc.? Et c'est dans ces conditions-là que j'en viens aux stratégies de sortie. Et là, je crois qu'il y a trois questions. Le premier, c'est quand, c'est-à-dire le timing, la séquence. Le deuxième, c'est la méthode. Et le troisième sujet, c'est la coordination. Alors, sur le timing, je crois qu'il faut faire attention. Il y a à la fois le risque d'être sortir trop tôt et le risque de sortir trop tard. Le risque de sortir trop tôt, on l'a vu, ça a été le cas à nouveau du Japon, qui a, par exemple, relevé son taux de TVA au moment où il ne fallait pas, qui a relevé ses taux d'intérêt alors qu'on était en pleine crise. En revanche, on peut avoir les États-Unis, peut-être, qui, entre 2002 et 2004, ont continué d'avoir une politique extrêmement, comme le disait Patrick, généreuse et accommodante, alors que la reprise est déjà très forte. Donc, il faut faire très attention. Il y a un dosage extrêmement complexe à faire en matière de sortie. Quand on regarde finalement la balance des risques actuelle, et ça rejoint mon point de tout à l'heure, finalement on voit bien qu'on ne va pas se précipiter pour faire de la stratégie de sortie et sortir des mesures conventionnelles et non conventionnelles. Et là je vais sortir mon joker en citant Jean-Claude Trichet lors de sa dernière conférence de presse. Il a dit, en résumé, le niveau actuel des taux d'intérêt demeure approprié. Je ne peux pas dire mieux.
On ne saurait être plus clair.
On ne saurait être plus clair. Et je pense qu'en fait c'est particulièrement clair. Le comment, alors le comment, c'est la cuisine, c'est pas très intéressant, donc je vais pas y revenir, je vais pas rester là-dessus trop longtemps. Il y a à la fois des aspects, je dirais, automatiques et spontanés, le phasing out, c'est-à-dire la sortie, le retrait de la liquidité, elle va se faire au fur et à mesure que la maturation des financements qui ont été apportés viendront à échéance. Et donc là, et puis il y a un aspect discrétionnaire, et là à nouveau, je dirais, on voit bien dans quel sens on va, de revenir à des conditions de marché, de sortir des mesures ad hoc qui ont été très fortes, à droite et à gauche, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et tout ça va se faire dans l'ordre, sachant que de toute façon, il faut bien se dire qu'il y a tous les moyens techniquement pour retirer ou ajouter éventuellement de la liquidité sur les marchés. Troisième point, c'est avec qui ? Mais c'est la coordination. Et c'est là où effectivement on a sans doute des difficultés, parce que il y a trois niveaux de coordination. Il y a le niveau national, c'est le policy mix. Quelle est la relation entre la politique monétaire et son orientation, la politique budgétaire et son orientation? Et on voit bien que c'est relativement conflictuel. Tout le monde est d'accord pour mettre des politiques de crise ou des politiques non conventionnelles au moment où la crise se déclenche. Pour sortir de la crise et retirer ces mesures, c'est beaucoup plus complexe. Un, parce que le diagnostic est plus difficile. Deux, parce que l'on connaît mal le délai, finalement, d'application de ces mesures. C'est difficile de dire, par exemple, actuellement, quel est le délai de transmission des mesures non conventionnelles de politique monétaire. C'est difficile de dire à quel point on en est dans la consommation des politiques de relance. Deuxième point, deuxième niveau de coordination, c'est l'Europe. Là, je laisserai plutôt Jean parler, mais je crois que c'est difficile aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet qui est les mécanismes de sortie des soutiens aux banques, et là il y a un vrai sujet de coordination, et puis il y a un deuxième sujet qui est le soutien budgétaire, et là pour le moment j'ai l'impression qu'on rentre plutôt dans un cadre conflictuel. Et puis il y a un troisième sujet, il y a un troisième niveau de coordination, c'est le G20, c'est le FMI. Je crois que Jean avant a parlé, on a déjà un petit peu parlé ensemble, on n'était pas complètement d'accord, mais on pourra revenir là-dessus. Enfin, et ça sera mon dernier mot, je crois qu'au-delà, les questions qui se posent, c'est quel type d'objectif pour les acteurs publics. Les politiques budgétaires, il y a des problèmes de soutenabilité. Les régulateurs financiers, c'est en plein dedans, c'est un des sujets du G20. Les banques centrales aussi, parce qu'il est clair que les politiques monétaires de demain ne pourront plus exactement avoir le même cadre, les mêmes objectifs et sans doute les mêmes instruments que celles d'hier.
Voilà, c'était la voix du banquier central. Merci à vous, Pierre Jaillet. Je me tourne maintenant vers Jean Pisani-Ferry, donc, qui est économiste, qui est directeur de Bruegel, qui est un think tank européen, hein, donc un réservoir d'idées, de pensées, comme on dit en français. Cette crise pose bien sûr la question des institutions de coordination, précisément celles qu'évoquait Pierre à l'instant, de leur fonctionnement. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment que malgré tout, ça n'a pas si mal marché, le G20. S'est réuni. Et c'était une institution relativement neuve dans l'histoire de la concertation internationale. Quel est le diagnostic que vous faites sur l'appareil institutionnel mondial et sur son évolution souhaitable au vu de ce que nous a appris la crise ?
Je crois que je ferai une distinction entre deux types de réponses. La réponse de gestion de la crise, que je trouve avoir été étonnamment bonne, et la réponse de reconstruction du système que je trouve beaucoup plus hésitante. Si on part de l'état dans lequel était le système institutionnel juste avant la crise, il était dans un très mauvais état. C'est-à-dire qu'on avait un G8 qui avait réussi la performance d'être à la fois illégitime et inutile. On avait des institutions financières internationales dont il faut rappeler que le Fonds monétaire était en plan social parce que comme il ne servait à rien, on était en train de réduire ses effectifs et que son directeur général s'occupait de négocier les conditions du départ de ses agents. Et on avait une Union européenne qui était construite pour les temps calmes et qui n'avait absolument aucun dispositif de gestion de crise prévu parce qu'on pensait qu'en faisant de la prévention, notamment en évitant les déficits publics, eh bien, par le même coup, on évitait les situations de crise financière. Et donc, c'est ce système-là qui a été confronté à un choc extraordinairement violent et à la nécessité de répondre de manière extrêmement rapide. Et de manière très étonnante, ce système a réussi à donner une réponse qui a été forte, qui a été audacieuse, qui a été coordonnée, qui a été adaptée. Alors, il faut rappeler que les faucons, du jour au lendemain, se sont transformés en colombes. La BCE, qui était pour tout le monde l'archétype du conservatisme, s'est mis très rapidement à prendre des initiatives pour fournir la liquidité aux banques. L'Allemagne, qui ne voulait jamais entendre parler de relance budgétaire, a dit que c'était l'horreur absolue, mais a fait la plus forte relance budgétaire de tous les pays européens. Plus que la France, même si aujourd'hui encore, elle a la réputation d'avoir fait moins. En fait, elle a fait sensiblement plus. Donc on a eu ces réponses audacieuses, on a eu un niveau de coopération qui était absolument sans précédent. La crise de 29, ça a été quand même marqué par la montée du protectionnisme, l'échec absolu de la coopération internationale. On a eu une conférence à Londres qui a été le moment où on a détruit tous les espoirs de coopération internationale. Là, on a eu une conférence à Londres où on a fait une relance massive par le Sud, par les ressources du Fonds monétaire, par la coordination des efforts. Et puis, dernier point, on a changé d'échelle, puisqu'on est passé du niveau habituel des pays industriels, brutalement, au niveau du G20. Et à l'intérieur du G20, les efforts de relance les plus importants ont été faits par les pays émergents, notamment par la Chine, en proportion de leur PIB, sensiblement plus que les Européens. Donc, on a eu cette chose étonnante, que ce domaine, qui était normalement l'apanage des grands pays industriels, est devenu brutalement quelque chose qui se fait à l'échelle globale avec des pays émergents qui y participent fortement. Et Pierre Jaillet rappelait la croissance des importations chinoises et la contribution de la Chine à la reprise mondiale. Ça, c'est pour la gestion de crise. Alors maintenant, pour la reconstruction, c'est beaucoup plus hésitant. C'est-à-dire que si on prend les différents plans, là, on pourrait faire un très, très long catalogue. Sur les institutions, À part le G20, derrière, il n'y a pas d'innovation institutionnelle majeure. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé une organisation mondiale de la finance, on a les machins qu'on avait pour gérer la stabilité financière sont restés des machins sous un nom un tout petit peu différent. Il n'y a pas de réforme fondamentale du rôle du Fonds monétaire international. Les agences de supervision restent quand même dans un cadre qui est largement national, même si on a fait quelques progrès en Europe. Donc, disons qu'on n'a pas fait passer le système de régulation à l'échelle internationale pour répondre à une finance globalisée, même si on a fait quelques mouvements dans ce sens-là. Sur tous les aspects plus spécifiques de réglementation financière, je vais prendre une métaphore, Louis Schweitzer me pardonnera, automobile. Bon, la voiture est sur le toit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à regarder les pièces une à une et on a commencé à les renforcer. C'est-à-dire qu'on a mis les mécaniciens au travail. Donc, on a lesté la voiture pour qu'elle soit un peu plus lourde et qu'elle se retourne moins facilement. Donc, ça, c'est le ratio de capital des banques. On a renforcé le système de freinage avec la contracyclicalité. On a doublé les effectifs policiers en créant des organes en renforçant les organes de supervision. Mais la question de savoir si la voiture était bien ou mal conçue, c'est une question sur laquelle on n'a pas de réponse et sur laquelle il y a des débats, mais il n'y a pas vraiment de décision. Par exemple, est-ce qu'il faut redécouper le système financier en morceaux de manière à éviter les effets de contagion? Est-ce qu'il faut avoir des banques beaucoup plus petites que les banques qu'on a, parce que les banques qu'on a étant tellement grandes peuvent prendre les États en otage? Est-ce qu'il faut, de manière générale, réduire la taille du système financier? Tout ça sont des questions aujourd'hui qui sont débattues, mais sur lesquelles on n'a pas de décision. Et enfin, sur tout ce qui est système de change, système de politique économique, global, on en est toujours un peu, c'est ce que disait Patrick Artus, un peu dans la même situation, donc on n'a pas de réforme fondamentale. Donc on a les réparateurs, les mécaniciens qui sont au travail et qui font des choses qui sont bonnes dans un certain nombre de domaines, mais on n'a pas les concepteurs au travail qui refont le design de l'ensemble. Et la question, c'est pourquoi? Et je pense qu'on a deux explications pour ça. La première qui vient naturellement à l'esprit, c'est de dire que c'est le fait de la capture des régulateurs par les régulés. C'est-à-dire, c'est le pouvoir des banques, c'est le pouvoir de la finance qui empêche de faire des réformes plus fondamentales. Et la deuxième, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelles réformes il faut faire et on hésite sur la nature des réformes à faire. Alors, je crois que les deux sont vrais, bien sûr. Mais la dernière page de la théorie générale de Keynes nous dit on surestime toujours le poids des intérêts constitués et on sous-estime le poids des idées. Et je crois que ça s'applique là aussi, c'est-à-dire que certainement il y a des tas de gens très actifs, très puissants, très organisés qui visent à défendre les intérêts de telle ou telle institution financière et de telle ou telle profession financière, mais il y a aussi une très grande incertitude sur la nature des réformes qu'il faut faire, simplement parce que cette crise a été une énorme surprise, cette crise suscite des débats, et que sur ces questions, par exemple, de savoir de quelle manière il faut réorganiser le système financier pour le rendre plus robuste, eh bien, on ne sait pas encore quelles sont les bonnes réponses. Et le risque, si on laisse trop la voiture, c'est qu'elle aille moins vite, et donc on ait quelque chose qui soit robuste, mais qui a un coût important en termes de croissance, de performance économique d'ensemble, etc. Donc, je voudrais conclure là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le degré de désarroi de tous ceux qui réfléchissent à ces questions, le degré, le caractère encore un peu primitif d'un certain nombre de débats et le fait que de changer, de comprendre ce qu'il faut changer, ça prend du temps. Et il y a une course de vitesse parce que, évidemment, on veut aller vite parce qu'il y a une fenêtre politique qui permet d'aller vite après le choc où ceux qui défendent le statu quo sont affaiblis, mais en même temps, aller vite, c'est prendre le risque aussi de faire des erreurs sur la conception de ce qu'il faut faire.
Merci Jean pour ce diagnostic. On reviendra bien sûr sur les éléments que vous avez donnés, notamment sur cette métaphore de la voiture et cet arbitrage entre solidité et rapidité sur la route, avec les risques que cela occasionne, bien sûr. Olivier Klein, vous êtes donc professeur à HEC et patron de la majeure finance. La majeure économie, excusez-moi. Et c'est vrai que finance, en ce moment, c'est presque infamant. J'en suis désolé. Ces crises, au fond, ces violentes secousses, elles sont souvent l'occasion d'une réorganisation profonde du modèle économique, à la fois dans la hiérarchie des puissances. C'est vrai que si on se réfère, et plusieurs d'entre vous y ont fait on en fait mention à la crise des années 30. Bon, ça a été l'occasion d'un bouleversement dans la hiérarchie des puissances mondiales. C'est souvent aussi l'occasion d'un bouleversement dans les technologies ou, disons, la hiérarchie des activités. Est-ce que vous voyez, dans la crise qui nous occupe aujourd'hui, justement, les prémices d'un tel changement ?
Oui, moi, je ne traiterai pas des sorties de crise en termes conjoncturels ou ni sous une vision normative. Et autrement dit, il faudrait qu'on fasse ceci ou il faudrait qu'on fasse cela. Mais on regarde une analyse de l'histoire longue, traitant de la crise comme un moment de la mutation profonde d'un système économique. Non pas la crise qui facilite la mutation, ni qui la précipite, elle peut parfois conjoncturellement même la retarder, mais qui révèle une mutation profonde, un changement. Et je me référerai rapidement à Gramsci, qui disait « la crise est ce qui sépare le vieux du neuf ». Toute grande crise dans l'histoire du capitalisme, toute grande crise montre que chaque système économique, chaque mode de régulation d'un système économique qui a connu une croissance de long terme, avec des soubresauts conjoncturels, mais des croissances de long terme, s'épuise tôt ou tard, perd de son efficacité, se dérègle. Et à ce moment-là, on rentre dans une période assez longue, qui peut durer une dizaine d'années, ou peut-être même davantage de temps en temps, mais on a commencé la crise avant, en réalité, hein, pas depuis deux ans, où on a une recherche à tâtons par le système lui-même, avec difficulté, d'un nouveau mode de régulation plus efficace. Et qui va chercher à régler les problèmes qui sont présentés les derniers temps dans le système antérieur. Et dans ce cas-là, en général, on s'aperçoit qu'on a un épuisement des anciennes industries motrices. On a eu le moteur à vapeur qui a été échangé, qui est devenu moteur à explosion, moteur électrique par la suite, avec tout ce qui va avec en termes d'équipement. On est passé de l'équipement automobile, l'équipement ménager, qu'est-ce que ça sera demain ? Un épuisement de l'efficacité des organisations du travail, avec des gains de productivité qui baissent pendant ces périodes de crise qui se manifestent comme telles. Un épuisement des normes de consommation, c'est-à-dire qu'on a une saturation des objets justement qui étaient ceux vendus par les industries motrices, et la demande étant saturée, on a un affaiblissement de la croissance. Et on a assez souvent aussi un changement du centre de l'économie monde. Alors évidemment, si on remonte à Venise ou à Gênes, etc., bon, mais plus récemment, évidemment, de l'Angleterre vers les États-Unis, si on prend le début du XXe siècle. Et au fond, à chaque fois, il y a une recherche de ce qui va remplacer cela, avec douleur souvent, parce que ça ne se passe jamais facilement, et encore une fois avec tâtonnement. Alors aujourd'hui, quelles sont ces mutations et quelles sont les possibles sorties de crise en regard de cela ? Premièrement, il y a manifestement un basculement du centre de l'économie monde avec des implications très fortes qui ont été signalées en termes financiers, hein, et d'équilibre des balances des paiements, des équilibres. On a la montée de la Chine, ça ne surprendra personne, mais qui de plus en plus développe un pouvoir économique, politique, militaire, qui va réclamer tôt ou tard et qui commence à le faire, un pouvoir monétaire. Et on a toujours les États-Unis. À ce titre, on peut se demander dans 10-20 ans où en sera l'Asie ? Est-ce que ça sera le nouveau centre de l'économie monde et que les États-Unis iront décliner, ou bien y aura-t-il un bipôle ? Et puis ensuite, on peut se poser la question de l'Europe, et ce sera peut-être une question avec Jean Pisani-Ferry tout à l'heure, mais moi, mon impression, et pour aller très très vite, c'est soit on se marginalise, soit on devient une puissance. Donc il y a des choix probablement à faire qui ne sont pas faciles pour l'Europe. Deuxième point, au-delà du basculement du centre de l'économie monde, on a de nouvelles industries motrices. Et ces nouvelles industries motrices qui viennent d'innovation essaient de répondre à certains problèmes qui se sont posés antérieurement. Alors, bien sûr, il y a un peu moins de 20 ans, on a eu les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui se sont fortement développées. Sur certains de ces marchés, on a déjà des saturations, mais en même temps, on a des convergences technologiques qui repoussent à chaque fois la saturation et est en train de produire aussi de nouvelles consommations. Et on voit bien aussi, en même temps, que la norme de consommation se déplace et qu'aujourd'hui, par exemple, dans le budget de tout à chacun, le téléphone portable, depuis 10 ans, est important, y compris pour les enfants. Il ne l'était évidemment pas il y a 10 ans. Mais au-delà de... Et donc, je crois que les nouvelles technologies de l'information et de communication n'ont pas fini, en réalité, dans leur modification, dans leur croisement, dans leur hybridation, de produire
des gains de productivité nouveaux et d'être encore une capacité de tirer la croissance en avant. Il n'y a qu'à regarder des industries qui ont des difficultés ou de la distribution qui a de la difficulté. Les distributions par Internet continuent de se développer. Et là, manifestement, on n'est encore qu'au début d'une lourde modification. Ensuite, on a des nouveaux besoins et je crois que les innovations vont chercher forcément à répondre à ces nouveaux besoins et que ce deviendront des nouvelles industries motrices pour demain, donc des sources de croissance nouvelles. Le premier besoin, évidemment, c'est de lutter contre le vieillissement. Toutes les populations mondiales vieillissent et tout le monde, dès qu'on a un peu d'argent, évidemment, a envie de pouvoir lutter contre le vieillissement. D'où le développement des biotechnologies qui aujourd'hui sont en train de connaître des innovations absolument majeures. On va avoir de la chirurgie non invasive, on a des médicaments qui progressivement vont cibler bien mieux les maladies et les problèmes exacts dans le corps plutôt que d'avoir des choses à spectre large, on a des thérapies géniques, on pourra peut-être transformer les gènes, on pourra peut-être même choisir ces gènes demain, peut-être c'est horrible, mais enfin ça se pourra, et on a de plus en plus des machines pour détecter et on aura des interventions de plus en plus en amont pour éviter les maladies. Demain, je suis presque certain, l'équipement médical de tout un chacun, comme des collectivités locales, etc., l'équipement médical sera supérieur à ce qu'est aujourd'hui l'équipement ménager. Deuxièmement, et très rapidement, on a l'épuisement des ressources naturelles. Et ça, évidemment, c'est un besoin considérable du coût d'innovation. Et là, on a toute une croissance possible sur les green tech, comme on les appelle. D'une part, parce que ce sont de nouvelles industries qui vont permettre d'économiser de l'énergie, de produire de l'énergie nouvelle, de stocker de l'énergie, ce qui n'est pas du tout facile en ce moment, et évidemment repoussera les frontières des limites naturelles de la Terre. Et puis, finalement, on a les nanotechnologies qui, elles, ne sont pas en tant que telles un nouveau secteur industriel, mais qui, en hybridation avec les autres technologies, permet de faire bien mieux de la biotechnologie et permet bien mieux aussi de faire des green tech. En conclusion, il y a beaucoup de menaces annoncées par cette crise, beaucoup d'enjeux très lourds, sociaux, écologiques, financiers éminents dont on a parlé, je ne reviens pas, géopolitiques, il peut y avoir une guerre des ressources, etc. Et on n'a pas de certitude quant à la sortie d'une crise heureuse. Cependant, et malgré tout, pour employer une phrase d'un conseiller d'Obama, « Never waste a crisis, it can turn out to be joyful transformation ». Donc, ne gâchons pas une crise, ça peut être aussi l'occasion d'une transformation intéressante du monde qui répond à des vrais besoins. Et pour finir, je dirais que dans chaque entreprise, certainement qu'attendre que la crise finisse pour revenir au passé est une stratégie mortelle. En revanche, innover, saisir les opportunités, faire de la stratégie et choisir son bon timing pour s'adapter, évoluer, anticiper, prendre les vagues quand elles arrivent de ces changements structurels, c'est utile pour les entreprises, c'est utile pour tous et c'est quand même un message d'espoir possible. Le pire n'est pas certain.
Merci Olivier Klein. C'était bien sûr, vous l'avez reconnu, notre optimiste du jour, le seul.
Il en fallait un.
Merci à vous en tout cas d'avoir aussi bien sûr donné une perspective de long terme.